quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous, 26 mai 2026, plein soleil. Bonjour Mathieu.
Bon dia.
Comment allez-vous?
Ben.
Vous êtes tout tranquille.
Votre portugais s'en vient bien, Mathieu.
Oui, merci.
Oui, êtes-vous déjà allé au Portugal, Mathieu?
Non, malheureusement, non. Pas encore.
Vous n'avez pas eu cette chance?
Non.
Comme notre ami André. Ben moi aussi, je suis allée l'année passée. André, vous, ça fait quoi, trois fois?
Trois fois, si on inclut Madère.
Qui est... C'est l'an pour les autres.
Hors du continent, mais c'est le Portugal.
Oui, puis aujourd'hui, d'ailleurs, votre chronique, c'est comme la suite de votre voyage en Algarve.
Exactement.
Au Portugal.
Alors, prise 2, chapitre 2 de mon récent voyage au Portugal, plus spécifiquement en Algarve, donc le sud du pays, et aussi Lisbonne, la capitale, il ne faut pas l'oublier.
Mais non, il ne faut pas l'oublier.
C'était ma première chronique.
C'est tellement beau.
À Canal M.
Pour vrai?
C'était sur Lisbonne il y a
En quelle année?
Ans.
Trois ans.
Incroyable. Comment ça
va
passe vite.
Oui, oui, on dit ça toujours, mais c'est vrai. Écoutons, qu'est-ce qu'on vous voulait qu'on vous dise, à part que ça passe vite. Mais c'est bon signe, je ne sais
Absolument.
Pas si c'est bon
ben
signe.
Oui, c'est bon signe.
Ouais, c'est, quand on ne voit pas le temps passer, c'est qu'on voilà. on s'ennuie pas du tout. Alors, merci André d'être là aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura aussi au menu? La chronique économie avec Michel Poitevin, professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal, qui parlera des mesures annoncées par le gouvernement de Christine Fréchette hier, et aussi du projet Pathways. Je ne sais pas si vous connaissez, Michel en sait beaucoup là-dessus. On aura la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Saviez-vous que le mois de mai, c'est le mois de la BD? C'est le mois de Marie, mais c'est aussi le mois de la BD. Et ça se termine bientôt, là, ce mois de la BD, mais ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas de BD en dehors du mois de mai. Il y a Anne-Marie donc qui a lu, elle, deux BD jeunesse, et elle a bien aimé. Donc, elle nous donnera son compte-rendu un peu plus tard au cours de cette émission. Voilà le menu de ce mardi. On commence avec Dumas.
J'avais la carte sans...
journée parfaite, une chanson de Dumas.
À la une de la presse, c'est loin d'être parfait pour les Canadiens de Montréal. Hurricanes 3, Canadiens 2, menottés. C'est écrit en lettres majuscules. 13 tirs au but seulement. Le tricolore a une nouvelle fois peiné à générer de l'offensive face à un adversaire coriace qui mène maintenant la série 2-1. Alexandre Pratt, on s'est fait un peu tirer dans le pied. Alors, les Canadiens se sont bien battus quand même. Le match a été jusqu'en prolongation et c'est en prolongation que Hurricanes a compté le troisième but fatidique. Actualité, coup de la vie, Fréchette sort encore le chéquier, un bouquet de mesures de 682 millions annoncés. Paul Journet écrit une chronique là-dessus. Acheter les électeurs avec leur argent. À quoi vous servira le beau gros dollar de plus dans vos poches par semaine? 15 minutes de stationnement au centre-ville? La moitié d'un petit café-filtre à la chaîne populaire du coin? Les possibilités ne sont pas si vastes, hélas. Cela remet en perspective la promesse de Christine Fréchette de détaxer certains mets transformés et produits hygiéniques. Le but n'est pas tant d'aider les Québécois, c'est plutôt de se montrer devant les caméras en train de dire qu'on les aide avec leur propre argent sur leur carte de crédit. La langue française propose un mot pour cela, électoralisme. La stratégie fonctionne mieux quand elle est subtile, écrit Paul Journet. Et Bruce Springsteen en rage contre la machine Trump. Notre journaliste a assisté au spectacle à forte teneur politique du boss. Le journaliste en question est Dominique Tardif. À la une du Journal de Montréal, évidemment qu'on parle de hockey, défaite en prolongation, qui fait mal, douche froide. Le gardien de but des Canadiens a été extraordinaire, mais le Canadien a perdu quand même. Ça sent moins la coupe, diraient certaines personnes. Et pour ce qui est de la coupe qu'a remporté la victoire aura son défilé à Montréal. La victoire de Montréal, championne de la coupe Walter dans la Ligue professionnelle de hockey féminin, qu'on appelle aussi la LPHF, aura droit à un défilé et à une grande fête samedi, a confirmé le bureau de la mairesse de Montréal, comme précisé par l'équipe championne de la LPHF. Les joueuses et les membres de l'organisation se retrouveront sur scène au parterre du quartier des spectacles après une parade sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Bleury et Clark. De 11h à 13h, les partisans pourront écouter les discours des nouvelles récipiendaires de la Coupe Walter durant cet événement gratuit. Par ailleurs, l'équipe sera aussi de passage à l'Hôtel de Ville de Montréal aujourd'hui pour signer le livre d'or. Les joueuses de hockey féminin ont été sacrées championnes mercredi dernier en remportant leur série contre la Charge d'Ottawa 4-0. C'est fantastique. Alors, je vous rappelle que le défilé aura lieu samedi le 31... Le 30 mai. Mettez ça à votre agenda. Et puis, à la une du Devoir de ce 26 mai, le Devoir est en France, le calvaire des livreurs sans papier. Les Français ne sont plus prêts à accepter les conditions de travail de ce métier devenu incontournable. Selon un rapport de l'Institut national d'études démographiques paru le mois dernier, les deux tiers des milliers de coursiers travaillant pour des plateformes comme Uber ou Deliveroo en France seraient des sans-papiers. Même en comptant ceux qui ont un titre de séjour, près de 99 % des livreurs sont nés à l'étranger. C'est plus que dans n'importe quel autre métier, explique Marwan Alkez Bousma, économiste à l'INED. D'après l'étude, les livreurs gagnent en moyenne 1 540 euros bruts par mois, l'équivalent de 2 470 $, soit 300 euros de moins que le salaire minimum, sans aucune retraite ni protection sociale, alors qu'ils travaillent en moyenne 63 heures par semaine. La plupart des livreurs ont aussi des charges à payer, ajoute Marwan Bousma, pour les coursiers sans papier en particulier. Il faut trouver une personne prête à louer un compte Uber ou Deliveroo, la plupart du temps à prix fort. Tous les deux ou trois jours, l'application me demande de faire une photo pour confirmer que je suis bien mon loueur, raconte Shaibur Rahman, qui est un livreur à vélo rencontré par Le Devoir pendant qu'il attend sur son vélo. Et il doit donc alors se dépêcher de le rejoindre. Et puis, autre titre à la une du Devoir, un bouquet de mesures qui coûte cher pour donner l'oxygène aux Québécois. Christine Fréchette a débloqué lundi des centaines de millions dépassant le budget fixé. On y reviendra à la chronique économie avec Michel Poitevin.
Quand je me réveille sans toi, le silence prend sa place. Une chance aux oiseaux qui se racontent leur voyage. Parce qu'ici c'est tranquille, juste la maison qui craque. Ça serait le fun, tu débarques. Que t'oublies quelque chose. Ah ouais, tourne de bord. Oublie donc quelque chose. Parce que toutes les chansons que j'entends à la radio me rappellent de ta voix et de tes mots. Et ces chansons ne me ramènent pas à toi. Mais pour l'instant, ça fera. T'oublies quelque chose. Ah ouais, tourne de bord. Oublie donc quelque chose. Je m'ennuie de ma vieille routine sans t'attendre pour souper. La cuisine est trop clean, je me colle.
La chanson Away du groupe B.
Away, merci Mathieu. Algarve et Lisbonne, Away au Portugal. Alors André, pour faire suite à votre chronique d'il y a maintenant deux semaines, vous nous parlez de votre deuxième escale en Algarve, soit la ville de Tavira et ses alentours.
Alors Away à Tavira.
Ouais, Away donc.
C'est mon coup de cœur en Algarve,
oui?
Tavira, vraiment. Une petite ville qui a gardé son authenticité. Ouais, je l'ai même surligné dans mon texte. Authenticité.
Ah oui, on aime ça quand c'est authentique.
Tavira a tout pour plaire. Hein? Il y a une petite rivière qui traverse la ville. Ça ajoute un côté champêtre. Je devrais même dire une rivière assez importante, pas si petite que ça. De bons restaurants, plusieurs avec terrasse, notamment le long de cette rivière-là. C'est très charmant. Les vestiges d'un château qui abrite un très beau jardin. Un pont qui date de l'époque des morts, donc début de l'an 1000. C'est pas rien. Et un des plus grands marchés publics d'Algarve, avec plusieurs étals de poissons, fruits de mer, des boucheries, des producteurs de fruits et légumes. De petites rues où il fait bon se balader, entre autres pour admirer un des 37 clochers de la ville. Pour une ville de 28 000 habitants, 37 clochers quand même. Il faut dire que les Portugais sont très catholiques.
Oui.
Et des marais salants, en partie accessibles à la promenade.
Des marais salants?
Oui. Où on recueille la fleur de sel.
Oui, oui.
Comme dans le sud de la France, comme en Camargue.
Ça donne envie.
Ça donne envie. Parmi les choses à faire à Tavira, à part ce que je vous ai mentionné, je vous recommande chaudement le spectacle de l'ensemble Fado comme Historia, qui a lieu tous les après-midi dans une petite salle dédiée de 40 personnes seulement.
Un spectacle intime.
Très intime. Ou à la très belle église adjacente, l'Igreja da Misericordia, pour une expérience et une sonorité totalement différentes. C'est ce que j'ai fait, c'était vraiment bien. Tous les détails sur leur site web, Fado comme Historia, ça s'écrit comme ça se prononce, .com.
Un ensemble de combien de chanteurs?
De mémoire, ils sont cinq.
Cinq ouais. Hommes?
Non.
Il y a des femmes.
La chanteuse, donc, c'est une femme. Il y a un chanteur aussi pour certaines pièces, un guitariste. Non, ils sont quatre.
C'est beau, cette musique.
Voilà. Tout comme à Albufeira, on a pu rayonner vers différents points d'intérêt dans la région, notamment à Cabanas, petit village voisin, tout paisible, où l'on retrouve un trottoir de bois qui donne sur la lagune derrière l'île de Tavira. Et c'est d'ailleurs une des particularités de la région, Hélène, de l'Algarve. C'est ce qu'on appelle le Parque Natural da Ria Formosa, qui est en fait un chapelet de cinq îles qui s'étend sur à peu près 60 km entre Faro, la capitale de l'Algarve, et Tavira. Et entre la terre ferme et ces îles, ben, c'est une lagune, ou des lagunes qui montent et descendent, parfois même se retirent complètement au gré des marées. Alors ça donne des ambiances très différentes selon le moment de la journée. C'est très facile de prendre un des nombreux bateaux-taxis pour rejoindre les îles, à marée haute, bien sûr, et accéder aux magnifiques plages dorées, ce qu'on a fait d'ailleurs à Cabanas. Et on a fait une longue promenade sur une plage très, très vaste et sauvage à cette période de l'année. Vraiment typique des plages d'Algarve, je vous en parlais la dernière fois, là, elles sont assez impressionnantes, ces plages.
Avez-vous vu des belles cabanes à Cabanas?
Oh, il y a de la cabane là, si on se promène à certains, mais quand même, c'est assez... L'Algarve, ça demeure modeste et relativement authentique, oui. Malgré tout, là, c'est pas des châteaux. Casella Velha, autre village à quelques kilomètres, en fait, un ancien village forteresse sur les hauteurs de la falaise, tout en hauteur, entouré de remparts qui datent du 17e siècle. C'est tout petit, quelques maisons traditionnelles, une église ceinturée d'une terrasse qui donne sur la mer, une vue assez extraordinaire.
Ça doit.
La petite ville d'Olhão, ça s'écrit O-L-H-A-O, mais en portugais ça se prononce Olhão, située à 30 minutes vers l'ouest de Tavira, véritable labyrinthe de petites rues où s'entassent d'anciennes maisons de pêcheurs, avec une architecture assez singulière de toits-terrasses sur différents niveaux. Les pêcheurs faisaient sécher leurs poissons sur ces hauteurs-là autrefois. Ça devait sentir très bon dans la ville, mais ils étaient habitués, quoi. On y retrouve là aussi un marché public assez grand, d'une architecture très particulière, en briques rouges, surmontée de dômes d'inspiration orientale. Je n'ai pas vu ça nulle part ailleurs, même au Portugal. Je ne sais pas d'où ça sort, comme on dit, mais ça vaut le coup d'œil. C'est très différent, donc, de ce qu'on voit habituellement. Villa Real de Santo Antonio. Ça, c'est la dernière ville située à l'embouchure du fleuve Guadiana qui sépare l'Espagne du Portugal, donc dernière ville à l'est. Vous voyez l'Espagne de l'autre côté, là. C'est très proche. C'est récent, cette ville-là, si on la compare à plusieurs autres, parce qu'elle a été construite au 18e siècle, alors que les autres villes datent d'habitude de l'an 1000, 1100, 1200. Et le plan de la ville est essentiellement à angle droit, à l'anglaise. C'est unique dans la région. Donc, ça vaut la peine, ne serait-ce que pour ça. Autrement, ça n'a rien de bien particulier, cette ville. C'est pour dire qu'on est allé aux portes de l'Espagne.
Oui. Et comment vous avez fait le choix des villes, en consultant un guide ou en marchant?
Oui, tout à fait. Et on était avec des amis qui, eux, étaient déjà allés, donc ils nous ont guidés à différents endroits. Ça, c'est bien.
des amis bons guides.
De bons guides.
Et est-ce que ça coûte cher, la vie en Algarve, André?
Écoutez, c'est une des destinations les moins chères en Europe, l'Algarve. Hein? Du côté de l'hébergement, on a payé autour de 80 euros la nuit là, pour de beaux appartements. Même à Albufeira, c'était plus que beau. Là,
ah oui?
Tout en hauteur, un grand appart.
J'allais dire, il ne faut pas le dire trop fort parce qu'ils vont augmenter leur prix.
Ben, écoutez, il y a beaucoup d'investissements présentement,
ouais.
De spéculation immobilière.
Ça peut changer.
Je pense que c'est le temps d'y aller, comme on dit. Les restos, du côté des restos, une bouteille de vin de bonne qualité va vous coûter à plusieurs endroits entre 15 et 20 euros. C'est pas cher.
Ça veut dire combien, ça, à peu près?
Fois 1,68 okay. présentement, donc 35 $ canadiens à peu près.
Ouais. Pour une bouteille de vin au restaurant,
c'est très abordable. Très abordable. Idem pour une belle assiette de poisson entier sur le grill, même plus près de 15 euros. Du côté des supermarchés, un pain d'excellente qualité va vous coûter sous les 2 euros. Hein? Alors, peut-être que c'est dû au fait qu'on n'était pas encore en haute saison. Là, j'exclus le supermarché là-dedans, bien sûr. Mais c'est beaucoup plus cher du côté de l'Espagne en Andalousie, qui est juste à côté. Et surtout en hébergement, c'est facilement 2 à 3 fois plus cher. Mais si on parle de Lisbonne, par contre, ça, c'est une autre histoire. On se rapproche davantage des prix des grandes villes occidentales, surtout pour les hôtels.
Ah oui?
Oui.
C'est un changement parce que ça a été longtemps accessible.
Vous voyez, Lisbonne, c'est devenu très in d'aller à Lisbonne.
Oui, oui, oui. Ah oui.
Beaucoup de gens
le Portugal,
parlent.
Alors, ouais. Lisbonne et voilà. Porto. Et le Douro. Ouais. Donc, Lisbonne, en parlant de Lisbonne, en parlant du loup, vous êtes allé passer quelques nuits dans la capitale du Portugal.
Oui, 3 nuits en début de séjour. C'était la 3e fois que je passais par Lisbonne, comme je le disais tantôt. Alors, j'en ai profité pour explorer des zones un petit peu moins fréquentées. Alors, je vous donne 2 exemples. Premièrement, à partir de la cathédrale, parce que je logeais pas loin de là, vous grimpez. Vraiment au sens propre
ah
du
oui?
terme grimper, parce que c'est vraiment une montée, dans les rues qui mènent à l'arrière du château São Jorge, château de Saint-Georges, et vous continuez sur votre droite vers le monastère de São Vicente de Fora. Et vous aurez là aussi de très belles vues.
Une belle récompense à pouvoir
oui,
grimper.
Oui, tout à fait. Des secteurs plus résidentiels, il y a moins de touristes, quelques restos intéressants, et le monastère lui-même peut être visité. Il y a toutes sortes de petites choses à voir, mais entre autres, une vaste collection de céramique illustrant les fables de La Fontaine, qui date du 18e siècle. Mmh. C'est très beau. De la terrasse située sur le toit de l'édifice, il y a une vue là aussi magnifique sur le quartier Alfama, qui est le plus ancien de Lisbonne, et sur le dôme du Panthéon, très majestueux, juste derrière le monastère. Autre idée d'excursion, c'est de se rendre du côté de l'ancien aqueduc de Lisbonne, en portugais, Aqueduto das Águas Livres. Un ouvrage impressionnant, Hélène, tant par sa taille, donc qui occupe une place imposante dans le paysage, et sa solidité aussi. C'est un des rares ouvrages à avoir résisté au tremblement de terre de 1755 qui a ravagé Lisbonne et une bonne partie du Portugal.
Ouais.
Terrible tremblement de terre.
C'est du solide, donc.
Oui, vraiment. Et ça se voit à l'œil, je veux dire. En fait, l'ouvrage en question, c'est tout un réseau de canaux qui permettait d'acheminer l'eau potable à partir d'une source située près de 60 km au nord. Donc, ça a été construit début 18e siècle. C'était colossal là, pour l'époque. Donc, on a marché sur le haut du dernier tronçon de l'aqueduc situé au nord-ouest du cœur de Lisbonne et visité l'ancien bassin qui recueillait cette eau potable pour alimenter la ville. Et c'est facilement accessible par les transports en commun. Donc, très facile d'aller là.
Beau voyage. Vous allez retourner pour une 4e fois?
Oui.
Oui?
Oui. C'est déjà, on se promet d'y retourner au printemps prochain puis de faire un combo avec l'Andalousie à côté. Ouais.
Bien, on vous envie. Puis, si vous avez les moyens de le faire, hein, c'est une belle destination
voilà.
à découvrir.
Je vous dirais que pour les voyageurs qui ont un petit peu moins de budget, l'Algarve, c'est à considérer.
On apprenait ce matin, André, le décès de Sonny Rollins, qu'on appelait le colosse du saxophone.
Ah oui, c'est vrai.
Dernière figure des grands de l'âge d'or du jazz ouais. avec des œuvres ouais. aussi impétueuses que contemplatives. C'est un journaliste de l'agence France-Presse qui écrit cela. Il s'est éteint lundi à 95 ans.
Aïe, aïe.
Et il y est écrit que le colosse du saxophone est mort dans sa maison de Woodstock, New York, à l'âge de 95 ans, sans préciser les causes de la mort. Sonny Rollins est considéré comme l'un des plus grands saxophonistes au monde, aux côtés de Charlie Parker, Coleman Hawkins ou John Coltrane. Coltrane, on va l'écouter dans une très belle pièce, A Sentimental Mood. Merci, André.
Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, my dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to
Suzanne.
Une chanson de Ray et Mark Ronson.
Et on s'en va du côté de chez Michel Poitevin pour la chronique économie. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Deux sujets aujourd'hui. D'abord, le sujet qui fait la une des journaux, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, qui a annoncé hier une série de mesures pour aider les Québécois à faire face à la hausse du coût de la vie, a-t-elle dit en entrevue.
Oui, ben, série de mesures, c'est le mot juste. Là. Il y en a plusieurs, sont toutes de petites mesures.
On parle de bouquets aussi, hein? Aujourd'hui.
Ah, de bouquets, oui, ouais. C'est un autre terme que j'ai vu, effectivement.
Un terme printanier.
C'est très printanier. Est-ce que ça sent bon? On va voir. Donc, ça va nous coûter 682 millions de dollars là, aux contribuables québécois, ces mesures. Je les classe en deux catégories. Il y a des mesures ponctuelles, c'est-à-dire qui sont comme juste une fois, puis des mesures récurrentes qui sont là pour rester. Du côté des mesures ponctuelles, on a une première mesure à compter, je crois c'est septembre,
oui.
650
oui.
$ de rabais pour l'immatriculation sur un an pour les voitures à essence hybride et hybride rechargeable. Pas les voitures électriques, parce que cette mesure-là, c'est pour aider à faire face à la hausse du coût de l'essence, là, surtout suite à la guerre en Iran. 50 $, c'est pas beaucoup. Une voiture qui roulerait 20 000 km par année puis qui ferait, par exemple, 8 litres au 100, consomme 1600 litres. Alors, 50 $ pour 1600 litres, c'est à peu près un peu plus que 3 sous le litre. Donc, c'est pas énorme, là, cette mesure-là, mais ça va quand même coûter 245 millions qu'on estime
au
gouvernement. Aux Québécois ou au gouvernement, c'est ça. Le 4 juin prochain, Québec va offrir un versement spécial pour l'épicerie et l'énergie qui peut aller jusqu'à 200 $. Là, on va voir, ça dépend de la taille des ménages. Puis c'est pour les personnes qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité. Donc, les gens n'ont rien à faire. Là. Ces personnes-là sont enregistrées lorsqu'elles font leur rapport d'impôt. Puis le gouvernement va verser le montant. Puis ça devrait coûter 335 millions de dollars. Puis ça va toucher, là, on estime à peu près 3,5 millions de Québécois qui pourraient avoir de l'argent. C'est 100 $ pour une personne seule, 150 pour un couple sans enfants, puis on rajoute un 50 $ lorsque le couple a des enfants.
Bon, c'est donc une fois, là, un versement spécial de 200 $.
Le 4, on nous dit que c'est très bientôt, le 4 juin prochain.
Oui, c'est jeudi prochain.
C'est ça. Donc, ça arrive vite. Mesures récurrentes, donc qui vont revenir, là, qui sont là pour de bon. On va détaxer certains produits de base, fruits et légumes prêts à servir. Si vous achetez, par exemple, un melon d'eau à l'épicerie, vous ne payez pas de taxes. Mais si vous l'achetez tout coupé dans une petite assiette là, préparée à l'épicerie, mais là, ça, c'est taxable.
Oui, c'est moins bon, puis c'est taxable.
C'est ça. La taxe va sauter.
Ouais.
Même chose, les muffins, si vous achetez un paquet de 6 muffins, il n'y a pas de taxe. Si vous en achetez moins que 6, vous payez la taxe. Ça aussi, on fait sauter ça. Même chose pour les barres tendres. Les petits pots de crème glacée, j'ai appris ça, en haut de 500 millilitres, ne sont pas taxés. Et en bas de 500 millilitres, ils étaient taxés. Ben, ils ne le seront plus. Ensuite, produits hygiéniques comme papier hygiénique et papier mouchoir, on enlève la taxe. En fait, quand on parle de la taxe, c'est la TVQ, évidemment. Le gouvernement provincial n'a pas d'effet sur la TPS, mais on enlève la TVQ. Donc ça, ça va s'appliquer à partir du 15 juillet. Donc, si vous aviez du papier mouchoir à acheter, attendez après le 15 juillet, si vous êtes capable, vous ne paierez pas de taxes. On évalue le coût total à une centaine de millions de dollars. L'économie pour une famille avec deux enfants est évaluée à 50 $, l'économie annuelle. On avait annoncé auparavant, là, si on voulait comme compléter la série ou le bouquet de mesures, on a un fonds de 140 millions pour le remboursement là, d'une part importante des droits de mutation mobilière, là, la fameuse taxe de bienvenue, pour les nouveaux acheteurs. Puis ça, c'était modulé en fonction du prix de la maison. Là, plus la maison devenait chère, moins on remboursait. Là. Donc, il y avait une limite au montant remboursé par achat de maison. On avait également une baisse d'impôt pour les PME de 50 millions qui avait été annoncée auparavant, puis le remboursement de la taxe carbone pour les agriculteurs, puis finalement un petit fonds de 22 millions pour les soins à domicile.
Oui, toutes des annonces qui ont été faites là, par le gouvernement Fréchette.
Michel... Exactement, depuis qu'elle est entrée, elle est devenue première ministre.
Oui, est-ce que vous pensez que ces mesures auront l'effet escompté?
Bien, ça dépend, c'est quoi notre but? Je pense que l'objectif, ça devrait être d'aider les plus démunis. Alors, dans cette perspective-là, si on regarde ces mesures, le rabais de l'immatriculation, ça vise des gens avec des autos. Alors, c'est pas seulement les plus démunis. Puis en même temps, tout le monde que tu ailles une grosse voiture à 200 000 $ ou une petite voiture à 20 000 $ tu vas avoir ton rabais. Alors, c'est pas très bien ciblé pour aider les plus démunis. Puis, c'est très marginal. Là. Je pense pas que ça ait un gros effet. Là. 3 sous le litre. On regarde le prix à la pompe varie pour beaucoup plus que ça, là, des fois d'une journée à l'autre. Là. Donc, je pense pas que ça ait beaucoup d'effet. Par contre, le versement, là, le 4 juin, à ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité, beaucoup mieux ciblé, parce que ceux qui bénéficient du crédit d'impôt pour la solidarité, c'est déterminé, c'est avec ton rapport d'impôt, puis ça cible ceux qui ont des revenus faibles. Alors ça, je pense que ça va avoir un impact ponctuel, évidemment, sur le versement là, qui peut aller jusqu'à 200 $ et pas... Et pas
récurrent.
Une famille reçoit un petit chèque de 200 $ je pense que ça peut faire du bien.
Là. C'est mieux qu'une claque d'en face.
Ouais.
Excusez-la.
Détaxer certains produits, ça n'aura pas un gros impact pour aider les gens, mais en même temps, je pense que ça corrige certaines bizarreries dans notre système de taxation. Là, pourquoi on taxait 6 muffins, mais pas 4?
Ouais.
Les pots de crème glacée, qu'est-ce qu'il y a de spécial à 500 millilitres? Donc moi, je vois plus ça comme on essaie d'arranger un peu notre système de taxation puis le rendre plus cohérent là, plutôt qu'une mesure pour aider. Pour les PME, là, ce qui avait été annoncé avant, réduire la fiscalité, je pense que c'est une bonne mesure. L'Ontario l'avait fait. Et puis, c'est une bonne mesure. On va encourager nos PME, l'entrepreneuriat. Là, donc ça, je pense que c'est une bonne mesure. C'est un peu ambivalent avec la taxe carbone sur les agriculteurs. C'est pas un métier facile. Puis souvent, on entend les agriculteurs qui disent que c'est difficile. Mais en même temps, malheureusement, l'agriculture, ça pollue aussi. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La taxe carbone est pour essayer d'encourager des pratiques plus vertes. Donc, je trouve que je suis un peu tiraillé, si vous voulez, avec l'abolition de cette taxe carbone pour les agriculteurs. Donc, en gros, je pense qu'il y a un paquet de mesures, là, puis d'ailleurs, il y a des éditorialistes qui ont dit la même chose. Ce sont des mesures qui sont plus électoralistes, qui visent souvent la classe moyenne, là, un peu tout le monde, plutôt que cibler à ceux qui en ont vraiment besoin. Là. Donc, je suis pas super impressionné par le bouquet, si vous voulez.
Ouais.
Il y a un pot qui vient avec.
Et Michel, qu'est-ce que aurait pu faire le gouvernement?
Moi, je pense se concentrer à ceux, par exemple, qui ont des crédits d'impôt pour la solidarité. Donc, cette mesure-là est beaucoup mieux ciblée. Je pense qu'elle est meilleure. Il y a aussi des problèmes d'itinérance. Bon, ça revient et tout. Les organismes communautaires se plaignent que c'est très difficile pour eux. Puis je pense qu'ils font un travail important, plusieurs organismes, auprès des populations défavorisées. Puis, essayer de favoriser la construction de logements. La taxe de bienvenue, ça favorise, ça augmente la demande, donc ça va augmenter le prix des logements plus qu'aider, là, si vous voulez. L'offre va peut-être suivre, mais à court terme, il va y avoir des hausses, possiblement des hausses du prix des logements. Donc, je pense qu'il faut vraiment agir du côté de l'offre. Et puis, une mesure, c'est essayer de dézoner dans certains endroits là, pour favoriser la construction, puis surtout diminuer la bureaucratie qui entoure l'approbation d'un nouveau projet immobilier. Là, il y a quelques semaines ou peut-être une couple de mois, là, si vous vous souvenez, il y avait eu des articles où on disait que c'était vraiment compliqué, surtout à Montréal, de construire. Là, il faut avoir des délais administratifs qui sont au-delà d'un an. Là, donc, Donc ça, ce sont des mesures, je pense, qui pourraient avoir à terme un impact sur les gens.
Alors, on va suivre ça de près, évidemment. Oui. Peut-être qu'il y aura des améliorations, des changements. On verra.
On va espérer.
Oui. Alors, vous vouliez aussi parler du projet Pathways.
Mais oui, il y avait un article dans la presse aujourd'hui sur le projet Pathways. Si vous vous souvenez, le gouvernement Carney, peu après l'entrée en fonction de M. Carney comme premier ministre, il est intervenu pour permettre la construction d'un pipeline qui acheminerait le pétrole des sables bitumineux vers le Pacifique puis les marchés asiatiques. On estime là, 1 million de barils par jour qui seraient acheminés par ce pipeline. Puis ça a été critiqué à cause de son empreinte carbone. Évidemment, là, si on stimule la production de pétrole dans les sables bitumineux, ça pollue pas mal. Mais le ministre avait dit pas de pipeline sans le projet Pathways. Donc, ce projet Pathways-là, bien, c'est pour réduire l'empreinte carbone ou mitiger les effets néfastes sur l'environnement là, de l'exploitation des sables bitumineux. Alors, c'est quoi ce projet-là? C'est un projet de plusieurs milliards de dollars qui vise à capter, transporter, stocker 16 millions de tonnes de dioxyde de carbone qui proviennent des sables bitumineux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, sur le site de l'exploitation, on va capter le carbone. Ensuite, on va ces émissions-là, on va extraire le CO2, on va le mettre dans un pipeline, puis on va l'apporter, ce CO2-là, à un lieu de stockage qui va être injecté en profondeur dans une forêt en Alberta, là, je cite l'article, dans une formation de grès cambrien basal. Donc, et puis ça, je pense que c'est comme poreux. Alors, il y a de la place pour mettre le CO2. C'est à 1 ou 2 kilomètres sous la surface de la Terre. Et puis le grès spongieux est recouvert d'une couche de sel germe non poreux. Donc, il agit un peu comme un scellant. Donc, on a l'impression qu'on pourrait le mettre là. Il n'y a pas de recette miracle pour stocker le CO2, là, puis ça, ça en serait une. Mais le problème, c'est que c'est extrêmement coûteux. Là. Pour la première phase, d'ici 2030, on estime les coûts à 16,5 milliards de dollars. Puis l'entente ou le projet prévoit que ça va être un financement tripartite par les gouvernements d'Alberta puis le gouvernement fédéral et les acteurs de l'industrie. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore d'entente sur le partage des coûts. Une des choses qui est avancée pour permettre ou aider à la naissance de ce projet là, ou à sa concrétisation, c'est d'avoir un marché du carbone. Pourquoi un marché du carbone? Bien, si on capte le CO2, on dépollue. Alors, un marché du carbone, comment ça fonctionne? C'est quand tu pollues, tu es obligé de payer pour la pollution. Mais si tu dépollues, tu vas recevoir de l'argent. Donc, en captant le carbone, c'est comme si on vend notre dépollution à ceux qui polluent. Donc, ceux qui polluent vont nous payer pour capter du carbone. Ça compense les émissions de carbone ailleurs dans l'économie. Alors, si on mettait en place un marché de carbone, ce projet-là, ça lui assurait une rentabilité à long terme, parce qu'on saurait que dans 10 ans, dans 20 ans, mais avec le marché qui est là, les gens de Pathways pourraient vendre le captage de leur CO2 sur ce marché-là. Puis on estime qu'un prix autour de 150 $ la tonne devrait suffire là, pour rendre le projet viable. Donc, ça, c'est une des choses, un des enjeux, c'est la création de ce marché du carbone-là. Nous, on a un au Québec, le marché du carbone, puis le prix en ce moment, c'est autour, si je me souviens bien, les dernières enchères, c'est Attendez que je me trompe pas. Là, je pense que c'est autour de 35 $ là. Il a déjà monté à 56. Là, c'est revenu plus à 35-40. Puis d'ailleurs, il doit avoir une enchère où elle a eu lieu la semaine dernière. Il faudrait que j'aille voir le prix s'ils sont sortis. Ça va sortir cette semaine, en fait, les prix auxquels ça s'est transigé.
Donc, le marché autour de 35
peut avoir un impact sur ce fameux projet Pathways. Donc, c'est à suivre. Ce n'est pas encore coulé dans le béton, mais on l'espère bien. Là, ce serait une façon là, de mitiger beaucoup les émissions de gaz à effet de serre là, par l'exploitation des sables bitumineux albertains.
Bien, merci pour cette super chronique, Michel.
Oui, elle était plus longue aujourd'hui.
Oui, on avait plus de temps.
Vous m'aviez invité.
Il y a une question maintenant, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre tout de suite, là, mais faites des recherches pour nous parce qu'on se pose la question concernant le recours collectif sur le pain tranché. Là, on attend notre cash, nous autres.
Ah. Oui. Bien, il y a eu plusieurs étapes, là, effectivement. Moi, je me souviens, à un moment donné, on avait reçu une petite carte Loblaws ou un petit bon d'achat de Loblaws.
C'est
plusieurs années, là, puis je pense que c'est possible qu'on avait le choix soit de l'accepter, puis on renonçait à des recours futurs, ou bien ou c'était fait de façon volontaire pour Loblaws, mais c'était une affaire comme, je ne sais pas, 10 $ une carte d'achat de 10 $ pour Loblaws.
En tout cas, on n'a pas eu ça, nous.
Mais j'ai vu d'autres choses passer récemment, effectivement. Je pourrais regarder, voir qu'est-ce qui arrive avec ce recours-là, parce qu'il y avait eu de la collusion entre certaines épiceries puis boulangeries pour maintenir les prix du pain élevé. Là.
Bon, bien, vous regarderez ça, Michel. Est-ce que vous êtes un amateur de jazz?
Moyen. Pourquoi?
Ce matin, on a entendu l'annonce là, concernant la mort de Sonny Rollins, un grand musicien de jazz, saxophoniste formidable. D'ailleurs, on a fait entendre une de ses pièces. Je vous en parle aussi. Il a travaillé avec Miles Davis. On parle aussi de Miles Davis parce que, imaginez-vous donc, il aurait eu 100 ans, lui, qui est mort à 65 ans. C'est quand même jeune pour mourir. Il aurait eu 100 ans puisqu'il est né le 26 mai 1926. Et puis, je pense qu'on va faire plaisir à bien des gens en écoutant un extrait de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. C'est Miles Davis qui a créé musique magique.
Je l'avais vu en concert à Vancouver quand j'étais étudiant il y a longtemps. Puis, si je me souviens bien, il y avait une particularité que souvent il jouait dos à l'auditoire.
Chanceux. Merci Michel.
Thank you.
c'est bon, hein? On a envie là, de s'installer, d'écouter l'album au grand complet et de revoir le film aussi avec la magnifique et excellente Jeanne Moreau. Ascenseur pour l'échafaud, musique de Miles Davis, qui aurait été centenaire à partir d'aujourd'hui. Lui qui est né, je vous le rappelle, le 26 mai 1926. On parlait des mesures de Christine Fréchette. On en parle aussi dans la paractualité. La première ministre Christine Fréchette était lundi à Saint-Rémy, en Montérégie, pour annoncer le lancement des travaux du projet Vent d'espoir de la vallée du Saint-Laurent, un complexe immobilier qui deviendra la 9e maison Martin-Matte, travaux qui étaient d'ailleurs déjà amorcés au moment de l'annonce. C'est un article de Pierre Saint-Arnaud de la Presse canadienne. Le complexe accueillera des adultes de 18 à 55 ans vivant avec un traumatisme crânien ou une déficience physique pour leur offrir des services adaptés, un projet de 19 millions auxquels les gouvernements du Québec et du Canada contribuent à hauteur de 10 millions. Il comprendra 42 logements adaptés, des installations spécialisées comprenant un bassin thérapeutique, une salle d'entraînement adaptée, un centre de jour et des espaces multifonctionnels. Madame Fréchette en a profité pour rendre hommage à l'instigatrice du projet, Sylvie Boyer, qui est fondatrice et directrice générale de Vent d'espoir de la vallée du Saint-Laurent. « Vous avez incarné la notion de résilience et de détermination comme nul autre. En fait, vous avez transformé une tragédie personnelle en initiative, non seulement bénéfique à vos enfants, mais bénéfique à la communauté également, bénéfique à tous ceux qui souffrent d'un traumatisme crânien. » Et vraiment, chapeau pour ça, parce que c'est impressionnant de voir le nombre d'années que vous avez dû investir en plus d'être agricultrice. Félicitations, vous nous donnez une leçon à nous tous. Le complexe accueillera ses premiers usagers à l'été 2027, donc l'été prochain, pas l'été qui s'en vient l'autre. Pour les logements, le projet prévoit que 16 ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du programme de supplément au loyer de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permettra de limiter leur contribution à leur loyer à un montant correspondant à 25 % de leurs revenus. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la Société et à 10 % par la Ville de Saint-Rémy, outre la subvention des deux paliers de gouvernement supérieur, Vent d'espoir de la vallée du Saint-Laurent, a également obtenu un terrain d'une valeur de 3 millions offert par la Ville de Saint-Rémy. Les autres contributeurs sont la Fondation Martin-Matte, 500 000 $, la Fondation Mirella et Lino Saputo, 1 million, le Fonds du Grand Mouvement des Jardins, 500 000, Mme Soril Rosenberg, ainsi que Kruger Énergie et Énergie Renouvelable des Cultures, 250 000 $. Vent d'espoir de la Vallée du Saint-Laurent a aussi injecté un peu plus de 1,5 million dans ce projet grâce à différentes activités de financement. Et je poursuis avec une autre nouvelle. C'est le nouveau Code de construction du Québec qui prévoit des normes de construction plus strictes, notamment concernant l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap se réjouit que ces nouvelles normes entrent en vigueur en octobre prochain. Son directeur général, Dominique Salgado, indique que ces mesures étaient réclamées depuis de nombreuses années. Si les constructions deviennent plus coûteuses pour les promoteurs immobiliers, Dominique Salgado s'inquiète que la facture soit refilée aux futurs acheteurs et locataires. Selon le Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, 21 % de la population québécoise a des limitations fonctionnelles. Écoutez au quotidien, c'est Hélène Denis qui vous accompagne jusqu'à 11 heures. À venir, une chanson de Velours Velours et la chronique livre en compagnie d'Anne-Marie Aubin. Anne-Marie qui nous parle de deux BD jeunesse.
Vous écoutez au quotidien avec Hélène Denis.
Ah, 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 ah pas d'y penser, même si c'est chose du passé. Ça ne cesse de me hanter. Ah, ah, je n'essaie pas de changer, j'arrête pas d'abandonner. J'ai l'impression de vivre à moitié.
Quand je pleure, je suis content. Une chanson de velours, velours.
Et on s'en va joindre Anne-Marie à Maria. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Anne-Marie, vous nous parlez en ce mois de la BD, de deux BD jeunesse.
Oui, pour les adolescents en fait.
Oui, alors on commence avec la nouvelle numéro 2, puisqu'il y a eu une nouvelle numéro 1. Nouvelle numéro 2, Premier amour par Cassandra Calin.
Oui, une BDiste qui est d'origine roumaine et qui vit à Montréal et qui s'est servi sans doute beaucoup de son expérience de jeunesse quand elle est arrivée ici. C'est discuté d'intégration, c'est discuté d'apprendre le français pour créer cette personne qui s'appelle Lia, qui est l'héroïne de cette série. Le premier tome s'appelait La Nouvelle tout court. Ça se passait à la rentrée scolaire. Comment cette nouvelle s'intègre dans l'école, se fait des amis alors qu'elle souffre elle s'ennuie finalement de ses amis de là-bas. Puis elle a de la difficulté, évidemment, à apprendre une langue et s'intégrer, tout ça. Et le deuxième commence après les vacances de Noël. Alors on est le 7 janvier. Et puis bon, ben là, elle reçoit ses résultats d'examen, puis elle est très triste parce qu'elle a un C. Mmh. Effectivement, c'est normal. Et dans sa classe, il y a des enfants qui viennent de toutes sortes de pays. Alors ça, c'est intéressant pour parler de l'immigration, par exemple. Et l'action se passe à Montréal. Il est question de l'amitié des jeunes filles à l'école, la famille et des premiers émois amoureux. Puis, ce que j'ai beaucoup aimé là-dedans, c'est que finalement, l'héroïne est très féministe et l'autrice sans doute aussi. Il y a des scènes qui sont touchantes. Par exemple, dans le premier tome, elle a ses premières menstruations, sujet dont on ne parle pas souvent dans les romans adolescents, mais elle souffre beaucoup. Et moi, je me suis souvenue qu'effectivement, j'étais incapable de suivre à l'école quand j'avais mes menstruations les premières fois. Là, c'est très, très souffrant. Alors, avec sa mère, elle va visiter le médecin qui lui dit « Oh, ça va passer, prenez des comprimés, puis revenez dans 6 mois si jamais ça ça continue. Alors, il lui donne une prescription, elle arrive à la pharmacie avec ça, puis la fille lui dit, mais ça se trouve sur les tablettes, on n'a pas besoin d'une ordonnance pour ça, parce que c'est pas vrai, on n'a pas attendu toutes ces heures dans la salle d'attente pour faire rire de nous, il va falloir trouver un autre médecin. Et cette scène-là m'a beaucoup fait penser à la reine, la mère des larves que j'avais lu,
ah oui,
un roman que j'ai adoré de Maud Jarry, où elle se fait un peu de la même façon, traitée de façon banale pour ses maux de ventre par un médecin qui la prend pas au sérieux, qui lui donne des antidépresseurs, qu'elle va jeter à la poubelle d'ailleurs, puis elle cherche une autre façon de se faire soigner. Donc, il y a comme un sujet assez, je pense, répandu de malaise quand les hommes médecins ne veulent pas comprendre les malaises d'une jeune fille adolescente et sa mère est dans une colère terrible. Outre ça, ben, elle va avoir des sentiments amoureux pour un jeune homme qui s'appelle Julien, qui est très populaire à l'école, est complètement obnubilée par lui. Elle ne voit pas qu'autour d'elle, il y a une jeune fille qui est intéressée, qui dit qu'elle a un secret à lui dire, mais elle est complètement ailleurs. Elle lui offre un petit bracelet, mais elle comprend pas que cette fille-là a des sentiments pour elle. Puis bon, ben, ce fameux Julien, lui, il veut être libre, il n'a pas envie de s'engager tout de suite. Ils sont trop jeunes, alors c'est un récit réaliste dans lequel toutes les jeunes pré-ados vont se reconnaître dans leur espèce d'excès, d'erreur, d'inexpérience dans les relations, les amitiés, la jalousie, les rivalités. Et tout ça est très bien illustré dans des cases très colorées, avec beaucoup de textos qui sont dans la case, il n'y a même pas de personnage, on voit le téléphone cellulaire de la personne avec les messages écrits et dont les traits expressifs dans la case, le fond de couleur de la case, témoignent des émotions de l'héroïne et des personnages. C'est sûr que ça va plaire davantage aux filles qu'aux garçons, parce que l'héroïne est une fille, puis toutes ses amies sont des filles. Mais le sujet est intéressant parce que c'est aussi l'immigration à Montréal, la difficulté de retrouver des aliments que t'aimes. Et puis bon, ben, ça se termine bien. Alors donc, une série qui va connaître un gros succès parce que le premier tome a fait fureur auprès des jeunes filles. Alors je pense qu'elle a gagné le prix des libraires en 2025.
Ouais.
Elle est sélectionnée au prix Bédélis. Alors, je suis pas inquiète, là. C'est un livre qui va plaire à tous.
Et elle est titulaire, je sais pas si vous l'avez dit, d'un bac en graphisme de l'UQAM. Oui. Et je regardais la page couverture. Je sais pas, ça a pas nécessairement de lien avec le contenu dont vous venez de nous parler. Ça fait un peu kitsch, années 60, oui, 70.
Mais en même temps, c'est un peu ça à l'intérieur. Cette fille-là se sent différente des autres. Elle arrive d'ailleurs. Et puis, la petite enveloppe qu'elle tient, c'est comme le secret des amours, des messages qu'on s'écrit. Alors, on sent là, qu'il va se passer quelque chose. Mais à l'intérieur, elle est illustrée d'une façon différente, effectivement. C'est peut-être pour rejoindre la première page couverture et faire le lien. Parce que si on regarde au couvercle 4, elle est déjà très différente. Alors oui, un livre qui va plaire assurément aux pré-ados. L'éditeur dit 8 ans et plus, moi je dirais 12 ans et plus. Ouais.
Bon, alors ça s'appelle La Nouvelle numéro 2. Et c'est Premier amour par Cassandra Callin aux éditions Scolastique. Autre BD, cette fois-ci qui s'intitule... Attends une minute, là. Je cherche
le titre.
Ah oui, Sinistre secret, toujours aux éditions scolastiques. Et oui, c'est par Molly Knox Ostertag.
Oui, un livre de 470 pages qu'on désigne pour 14 ans et plus. Oui, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de questions d'identité sexuelle. Et c'est une personne qui est queer, Molly Knox Ostertag, et qui est une BDS à succès, qui a fait des films d'animation, ça se sent dans l'illustration, qui vit à Los Angeles, qui a étudié à New York, et qui est traduit par Isabelle Allard en français. Le titre, c'était « The Deep Dark ». Et elle avait déjà publié, cette personne-là, « La fille venue de la mer » que j'avais lu et commenté, qui a aussi été finaliste au prix Bédélis, et « Le garçon sorcière ». Donc, dans tous ces livres, il y a toujours question de la diversité. Et puis, bon, ben, c'est en couleur, parfois, mais surtout en noir et blanc. Et le traitement de l'image est vraiment travaillé. Moi, j'ai commencé à le lire dans la soirée, c'est quand même 470 pages, mais je ne pouvais pas arrêter, là. Je l'ai monté dans ma chambre et j'ai dû me coucher à 1h du matin.
Ah oui?
Je voulais absolument savoir la fin.
C'est bon signe.
L'intrigue est vraiment bonne, puis ça nous tient. Alors, donc, dans cette histoire-là, il y a une jeune fille, Magdalena, qui va finir ses études secondaires. Ça se passe dans le désert aux États-Unis, en Caroline.
En Caroline, et, tiens, tiens.
Ouais. Et là, cette personne qui doit avoir, je ne sais pas, moi, 15-16 ans à la fin des études secondaires, vit comme une vieille personne. On comprend que cette personne-là, elle est renfermée, solitaire, qu'elle étouffe, elle a des responsabilités envers sa grand-mère qui est malade, sa mère, est séparée, puis elle a un nouveau conjoint. Et elle, Mags, on l'appelle Mags, son nom, son diminutif, travaille à temps partiel. Mais ce qui est le plus lourd pour cette personne-là, c'est un secret. Puis là, l'éditeur nous dit un secret qui pourrait blesser ou même tuer s'il était révélé comme c'est déjà arrivé dans le passé. Alors, ce secret, on ne le sait pas avant un certain nombre de pages, puis on se demande bien comment le personnage, l'héroïne, va se sortir de tout ça. Alors, donc, tout ça, c'est comme une métaphore. Il y a un aspect fantastique ou merveilleux ou réalisme magique dans l'histoire qui se passe dans le sous-sol de la maison. Et puis, on ne sait pas tout de suite ce que c'est. Peu à peu, on a des éléments, puis c'est ce qui nous tient tout le long de l'histoire. Donc, ça, ce secret-là, ça concerne une bête qui a des dents, qui est dans la cave, dans une cage. Et pour cette raison, Magdalena a toujours un bandage dans sa main qui cache des blessures. Et puis là, ben, un jour arrive une jeune fille qu'elle a connue enfant, qui s'appelle Nessa, en fait, ça doit être Vanessa. Et quand arrive cette personne-là, ça bouscule tout dans sa vie parce que survient les souvenirs. Et cette personne-là sait c'est quoi le secret. Et ensemble, elles vont essayer de s'en sortir, puis elle va surtout lui dire d'arrêter de vivre comme dans une prison où elle travaille, elle s'occupe de sa grand-mère, elle ne peut pas jamais aller à des soirées, dans des fêtes d'amis. Alors, dans cette relation-là, avec cette fille qui est de passage, qui ne sera pas là pour tout le temps, on aborde des relations amoureuses, les relations queer, la diversité sexuelle. Et cette fille-là, contrairement à Max, elle est très bien dans sa peau, elle est à l'aise, elle est jolie, elle est heureuse. Le contraste est très, très évident. Et puis là, peu à peu, elle va forcer Max à sortir de son mutisme, de sa torpeur, parce qu'elle s'est emmurée dans une solitude de personne âgée, là, ça n'a pas de sens. Et puis là, elle va finir par le dire, c'est quoi le secret? Et c'est quoi le drame qu'il y a autour de ça? C'est pourquoi que c'est sinistre, secret, parce qu'il est question d'un mort dans l'histoire. Mais tout ça est traité avec fantastique. Et le fantastique, ça permet une grande métaphore qui raconte le mal, la culpabilité et ce qu'on raconte, puis qui va être éclairci seulement à la fin. C'est difficile d'en parler sans tout dire, là. Mais c'est très émouvant parce qu'on vit avec le personnage la souffrance, les amours difficiles et le traumatisme. Puis il y a aussi l'amour intergénérationnel parce qu'elle s'occupe beaucoup de sa grand-mère. Puis, comme je vous disais, je n'ai pas pu fermer le livre tellement l'intrigue est bien menée malgré les 470 pages.
Et il y a des dessins quand même.
Il y a des dessins et il y a parfois des traitements d'images qui sont faites sans doute par ordinateur qui ressemblent à des numérisations. À d'autres moments, tous les textes sont comme en double et en triple impression. On a du mal à les lire. Et tout ça témoigne de l'émotion qui se vit dans l'histoire. Et quand on a des flashbacks dans l'enfance de ces deux personnages-là, là, les pages sont toutes en couleur avec le gros soleil de cette région-là, alors que tout le reste du livre, et surtout dans le noir et blanc, dans le très sombre, jusqu'à temps que cette héroïne-là sorte de sa torpeur et que la lumière revienne à la fin. Bref, très bien fait. Beaucoup de textes, malgré le fait que c'est une bande dessinée, il y a beaucoup d'interactions entre l'image et le trait, puis les émotions des personnages. C'est très bien fait. Ça va se mériter un prix, c'est certain. Moi, j'avais bien aimé La fille qui venait de la mer, je trouvais ça très audacieux. Celui-là est audacieux aussi parce qu'il aborde des sujets qui touchent les adolescents et avec lesquels ils ont parfois du mal à vivre et puis qui est une belle façon, je trouve, d'aborder les diversités sexuelles, on peut appeler ça comme ça. Donc, très beau, très belle BD qu'on peut se permettre d'aller plus tranquillement que je l'ai fait moi-même, mais vraiment une bonne brique.
Oui, hein, 470 pages, là, ça frôle les 500.
Ouais.
Sinistre secret aux éditions scolastiques pour les 14 ans et plus.
Oui.
Par Molly Knox Ostertag. Et puis l'autre, c'était la nouvelle numéro 2, Premier amour. Et j'ai eu un flash, là, je vous disais tantôt que ça me faisait penser à des anciennes images de BD que j'ai connues enfant ou début de l'adolescence. Là, les Archie, ça me faisait penser à ça, Betty, Véronica.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a une influence américaine, je dirais, dans le traitement. Puis comme a fait du film d'animation, ça se sent dans l'illustration aussi.
Ah ouais. Oui. Bien, merci, Anne-Marie, pour cette chronique vraiment intéressante. Et je vous souhaite de bonnes lectures, de belles découvertes d'ici notre prochain rendez-vous la semaine prochaine.
Au revoir, à la semaine prochaine.
La Robina, Voz de mi vida.
La grande gagnante de la 30e édition des Francs ouvertes qui se déroulait le 11 mai dernier, qui opposait Irdens Exantus et Fior. Alors, Louane Larobina a terminé la soirée en première position, charmant le jury et le public avec sa musique aux racines latines, héritage de ses origines argentines. Elle, qui a lancé son deuxième micro-album en 2025 intitulé Casa, a remporté une bourse de 15 000 $ offerte par Sirius XM et une panoplie d'autres prix, incluant 20 heures d'enregistrement au studio d'Endurant, plusieurs campagnes publicitaires et une soirée de lancement au ministère avec captation vidéo. C'est un concours majeur très en vue et convoité. Il y a beaucoup de leviers qui viennent avec une victoire aux Francs ouvertes et c'est tant mieux. Elle est née à Gaspé d'une mère québécoise et d'un père argentin. Le chanteur et musicien Juan Sebastián Larobina. Louane baigne dans la musique depuis sa tendre enfance. Elle est diplômée de l'École nationale de la chanson depuis 2021 et elle s'est rendue en finale de Ma première place des arts et en demi-finale du Grand concours Hydro-Québec au Festival international de la chanson de Green Bay. C'était en 2024. Cette fois, elle a gagné les honneurs. Elle a gagné les grands honneurs aux Francs ouvertes 2026. Bravo à Louane Larobina. Le conseil municipal de la ville de Rimouski a adopté en séance régulière le 19 mai dernier trois nouveaux plans d'action en immigration et diversité pour l'intégration des personnes en situation de handicap ainsi que pour la famille et les aînés. L'information diffusée à travers un communiqué précise que ces différents plans sont issus de la politique d'inclusion et de la politique de la famille et des aînés adoptée en 2024. Ils vont permettre d'assurer une approche cohérente et complémentaire pour l'ensemble de la population et des partenaires du milieu, en ce sens qu'ils serviront à orienter les actions municipales au cours des prochaines années. Parmi ces actions phares, on peut noter l'élaboration de stratégies pour rendre les programmations d'activités plus inclusives et accessibles, la réalisation d'un inventaire suivi de l'achat et de l'installation de tables à langer pour bébés et personnes en situation de handicap dans les salles de bain, non genrés, des femmes et des hommes, l'organisation annuelle d'une cérémonie d'accueil pour célébrer les nouvelles arrivantes et les nouveaux arrivants issus de l'immigration en présence des élus de la ville, l'exécution de travaux d'amélioration de l'accessibilité universelle dans plusieurs bâtiments municipaux, la tenue de formations sur les préjugés et les biais inconscients à l'intention du personnel municipal et des membres du conseil municipal. Le maire Guy Caron affirme que cette démarche vise à permettre une bien meilleure réponse aux réalités des citoyens en collaboration avec les partenaires du milieu. Une invitation à un dîner-conférence sur l'accessibilité dans les laboratoires de recherche. L'événement est en anglais avec option de sous-titrage en français en simultané sur Zoom. Cet événement est ouvert à toute personne souhaitant contribuer à la création d'environnements de recherche accessibles. À l'occasion de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui s'ouvre le 1er juin, DRD2R, en collaboration avec le Réseau interuniversitaire québécois en équité, diversité et inclusion et l'équipe Équité de l'Université McGill, vous invite à ce dîner-conférence pour présenter le nouveau guide pratique destiné aux équipes de recherche pour favoriser l'accessibilité dans les laboratoires. Cette activité mettra en lumière certains éléments clés de cet outil, notamment les aspects juridiques et la responsabilisation en matière d'accessibilité dans les environnements de recherche, l'accueil et l'intégration des chercheuses et chercheurs en situation de handicap, le soutien aux mesures d'adaptation en milieu de recherche et l'amélioration de l'accessibilité dans les laboratoires humides. Il y aura plusieurs panélistes et l'animation sera faite par Marie-Lou Daudier, qui est conseillère principale en équité Diversité et inclusion pour l'initiative D2R à l'Université McGill. Pour avoir plus d'informations, j'ai ici un courriel d2r.coms@mcgill.ca. d2r.coms@mcgill.ca. Le grand saxophoniste Sonny Rollins, figure du jazz, légende du jazz, qui est mort à 95 ans. On a appris sa mort ce matin, lui qui s'est éteint hier 25 mai, à l'âge de 95 ans. Alors, salut Sonny Rollins et merci pour tout, lui qui avait un talent fou. Saxophoniste ténor au look spectaculaire, barbe grise, chevelon gris également. Nos grands s'éteignent, ainsi va la vie. À demain.